France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Dans le dernier roman de Karim Amelal, Dernières heures avant l'aurore, Mohamed, un vieil homme algérien qui avait quitté son pays pour la France au début des années 90, la décennie noire, exprime sa peur de retourner au pays, ce qu'il va pourtant faire puisqu'il l'a décidé, mais il sera accompagné d'un ami. Sa peur n'est pas seulement liée à la nostalgie ou aux souvenirs risquant d'être déçus, elle s'explique plus certainement par le flou qu'il ressent quant à son algérianité et à son retour à Alger. Ce ne sera pas forcément le plus facile pour lui. Comment retisser des liens avec un pays qui évolue à grande vitesse? Comment définir son identité d'un côté ou l'autre de la Méditerranée, d'autant plus quand on a choisi la France pour refuge? Ce sont des questions que de nombreux Algériens et Franco-Algériens se posent depuis longtemps et qui se posent peut-être d'autant plus crûment en ce moment depuis le 22 février et le début de ce mouvement de contestation qui a réussi à faire chuter Bouteflika. On s'intéresse ce matin à cette identité algérienne, ou peut-être ses identités en Algérie et en France, avec nos invités. Karim Amelal, donc, bonjour.
Bonjour.
Écrivain franco-algérien, enseignant à Sciences Po, au Paris. C'est aux éditions de l'Aube que vous avez publié Dernières heures avant l'aurore, avant le déclenchement, je précise, du Hirak, le mouvement de protestation qui est né le 22 février. Mouvement que vous pressentiez, Karim Amelal. On va y revenir. Et puis Benjamin Stora est également avec nous par téléphone. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Historien, grand spécialiste de l'histoire algérienne et franco-algérienne, vos lumières nous seront précieuses ce matin, Benjamin Stora. Et d'ailleurs, la première question sera pour vous, question d'actualité. Hier, Emmanuel Macron a lancé un appel aux maires de France pour qu'ils donnent aux rues, aux places de leurs communes, le nom de combattants issus d'Algérie et plus largement d'ailleurs des anciennes colonies françaises qui ont largement contribué au débarquement en Provence, dont les 75 ans étaient commémorés hier. La moitié des troupes étaient représentées par des combattants venus d'Afrique, spahis, zouaves, tirailleurs sénégalais, algériens, goumiers et tabors marocains. Vous diriez que c'est un hommage à bon compte, Benjamin Stora?
Donc, c'est un hommage important et avec une petite précision historique pour le débarquement de Provence du 15 août 44, les trois quarts des hommes étaient des troupes coloniales, pas la moitié. Il y a 400 000 hommes qui étaient en provenance d'Afrique du Nord. Il y avait aussi parmi eux, bien sûr, des Européens d'Algérie, des pieds noirs, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle les musulmans, comme on les appelait à l'époque, indigènes, serbes, marocains, algériens, tunisiens et d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un débarquement malheureusement trop peu connu par rapport à celui du 6 juin 1944, mais qui a joué un rôle très très important dans la libération de la France. Donc je crois qu'effectivement le président de la République a eu raison d'insister sur cette présence et donc de cette commémoration pour essayer de rassembler autour de cet événement historique.
Mais après des dizaines d'années peut-être d'oubli et peut-être même de manque de considération envers tous ces combattants quand même.
Oui, bien sûr, il y a eu un oubli, il y a eu le blanchiment des troupes, comme on disait, c'est-à-dire qu'au moment d'entrer en Allemagne, enfin la campagne d'Allemagne, il y a eu la relève des troupes, et en particulier les troupes africaines ont été relevées, donc ont été gommées, en fait, tout simplement de cette histoire. Et donc il était temps, effectivement, qu'on reconnaisse cette fraternité des armes dans le combat pour la libération de la France. Ce que disait d'ailleurs hier, lors de cette commémoration, près de Saint-Raphaël, beaucoup d'anciens, y compris donc français, comme on dit entre guillemets de souche, et qui ont parlé de leurs compagnons d'armes, et qui ont signalé, qui ont dit l'injustice dont ils avaient été victimes pendant de très très nombreuses années. J'étais présent d'ailleurs à cette commémoration, et c'était très émouvant.
Karim Amelal, dans votre roman Dernières heures avant l'aurore aux éditions de l'Aube, vous vous êtes intéressé à cette vague d'émigration algérienne dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, celle qui a eu lieu au moment de la décennie noire et au début notamment de cette décennie noire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres vagues qu'on a peut-être plus documentées, dont on a peut-être plus parlé?
Elle est assez différente parce que c'est une vague d'immigration qui d'abord a surgi dans un contexte particulier, le terrorisme, ce qu'on a appelé la décennie noire, vous le rappeliez, et donc une sorte de guerre civile, même si l'expression est un peu taboue encore en Algérie, entre des forces gouvernementales et puis des groupes terroristes armés.
Des dizaines de milliers de morts.
Absolument. Donc il y a ce contexte qui est un peu différent des vagues précédentes, l'immigration de travail après l'indépendance ou avant d'ailleurs. Et puis il y a aussi d'une certaine manière, le profil de ceux qui sont partis. Parce que c'est une émigration en se plaçant du côté algérien, ou immigration en se plaçant du côté français et européen d'ailleurs, parce qu'ils n'ont, ils ne sont pas venus qu'en France, qui est davantage marquée sur le plan intellectuel ou sur le plan social. Ce sont des Algériens intellectuels, des journalistes, des professeurs d'université, des médecins, qui sont partis parce qu'ils étaient menacés directement ou leur famille par le terrorisme, ou parce qu'ils pressentaient que les choses allaient dégénérer, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'arriver par la suite, lorsque l'Algérie s'est enfoncée dans ce tourment-là, dans cette tragédie. Et donc, ce sont des intellectuels qui sont arrivés en France, qui ont été ailleurs, et qui ont dû tardivement reconstruire, recomposer leur vie. C'est le cas de mes parents, par exemple. Mon père est algérien, ma mère est française. Mon père était haut fonctionnaire en Algérie à ce moment-là. Et beaucoup de ses amis, beaucoup de ses collègues ont fait ce chemin-là, un chemin inverse en quelque sorte, et ont été obligés, c'est peut-être la troisième caractéristique à mon sens, une cohorte d'Algériens qui étaient assez âgés en réalité, qui sont partis pas du tout à 18 ans, à 19 ans.
Ouais, c'était pas pour aller travailler, comme vous disiez.
Voilà. Pas du tout, et qui avaient déjà un parcours professionnel très important derrière eux, et qui ont dû, à 40, à 50, à 60 ans parfois, reconstruire complètement leur vie.
Et on peut supposer qu'elle a nourri de façon un peu particulière les relations entre la France et l'Algérie, cette vague d'émigration, Karim Amelal. Et on posera la question aussi à Benjamin Stora.
Oui, je crois. Et je crois que d'ailleurs, dans le débat public en France, beaucoup de ceux qui s'expriment, qui sont partie prenante de cette histoire, eh bien, sont précisément des intellectuels et beaucoup de gens qui sont partis ou qui ont appartenu à cette cohorte-là des années 90. Et c'est une vague d'émigration ou d'immigration qui effectivement, me semblait-il, n'avait pas été très très très, ou dont on avait assez peu parlé. Et donc j'ai eu envie dans ce roman de mettre un petit peu l'accent et de parler de cette vague-là d'immigration.
Comment, Benjamin Stora, est-ce que cette vague d'immigration dont parle Karim Amelal et qu'il documente dans son roman, comment est-ce qu'elle a fait évoluer ces relations des deux côtés de la Méditerranée entre la France et l'Algérie?
Oh ben, elle a fait évoluer, je ne sais pas dans quel sens, mais enfin, bon, c'est important ce que dit Karim Amelal, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs vagues d'immigration algérienne vers la France, une immigration de type ouvrière classique, notamment en provenance de la Kabylie dans les années 30, puis une seconde vague pendant la guerre d'Algérie, bien sûr, puis une troisième vague dans la décolonisation après les indépendances, et puis là une quatrième, effectivement, et il faut dire que cette dernière arrivée de ces Algériens en France est peu connue, peu documentée, d'où l'intérêt de ce livre, bien évidemment, parce que c'est une présence, une migration très particulière, c'est-à-dire de gens qui, effectivement, ont appartenu à la haute fonction publique, ou bien à la médecine aussi, beaucoup. On sait qu'en Algérie, notamment avant la chute de Bouteflika, il y a eu des grandes manifestations dans le secteur hospitalier, donc c'est dire que c'est un secteur qui a été durement touché par toutes ces années, disons, de répression, d'absence de liberté ou autre en Algérie. Donc on a un pays qui a connu beaucoup de vagues migratoires en direction de la France, et toute cette diaspora algérienne, quelle que soit la temporalité, il faudrait y ajouter d'ailleurs par parenthèse aussi ceux qui sont venus en France en provenance d'Algérie, notamment dans les années 60, ceux qu'on a appelés les Européens d'Algérie, hein, qui font partie, à mon avis aussi, de cette migration. Donc toute cette diaspora très très importante, eh bien, naturellement, construit un espace très particulier, un espace mixte, culturel et social, entre les deux rives de la Méditerranée.
Alors on parle d'un phénomène qui est relativement récent, Karim Amelal, le début des années 90 ou les années 90. On pourrait imaginer que le retour, qu'en retour il y a, est peut-être un peu plus facile que pour des gens qui sont partis il y a plus longtemps. Mais Mohamed se fait aider de son ami Rachid pour rentrer au pays, et on constate que c'est extrêmement difficile de revenir en Algérie, et que ça souligne donc quelque chose qui a trait à l'identité franco-algérienne qui est problématique. problématique, Karim Amelal.
C'est difficile et ça commence par les mots. Rentrer, c'est intéressant parce que on sait jamais quel mot employer. Et eux-mêmes, d'ailleurs, dans le roman, lorsqu'ils en parlent au départ, ouais, ne savent pas quel mot employer.
Est-ce qu'ils retournent, est-ce qu'ils rentrent,
revenir, ouais, rentrer, repartir, etc., etc. Et donc ça commence par les mots. On a du mal à définir le processus en quelque sorte. Donc la complexité, la distance aussi, vient d'abord de là. Lorsque ces deux personnages reviennent ou rentrent en Algérie, le temps a passé. Et c'est aussi un livre sur l'exil. Hein. Amin Maalouf avait écrit un très beau livre qui s'appelle Les Désorientés, où il parlait aussi d'un retour au pays. Et dans le cas de tous ces exilés, c'est un petit peu exilés au sens très très large, hein, ceux qui sont partis volontairement, involontairement, etc., de leur pays d'origine. C'est un peu toujours le même processus de réacclimatation, de reculturation en quelque sorte. Il faut se réhabituer. Voilà, beaucoup de ré. Et c'est ce qui arrive à ces deux personnages. Le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts, et ils ne reconnaissent plus le pays dont ils sont partis. Parce que ce pays-là ne les a pas attendus, parce qu'il a prodigieusement avancé, parce qu'il correspond aussi assez peu aux clichés que l'on entretient depuis l'étranger. C'était souvent le cas au moment où Bouteflika était président de la République, c'est-à-dire que depuis la France, et c'était très entretenu par beaucoup de médias, on avait l'idée, l'image d'une Algérie où il ne se passe rien, ouais, du tout. Une sorte de banquise que l'on observe de haut, de loin, l'Algérie vue du ciel. Voilà, on était très très friands de ce genre de choses depuis la France, sans voir tout ce qu'il y avait dessous, sous la banquise. Une Algérie qui fourmillait, pleine de créativité, pleine d'espoir, pleine de combat aussi. Benjamin Stora a parlé du combat des médecins, qui a scandé ces dernières années, hein, mais beaucoup d'autres travailleurs, via des syndicats autonomes, etc., s'exprimaient, militaient et combattaient vraiment le régime. Et on ne voyait pas ça. Et ces deux personnages, lorsqu'ils reviennent en Algérie, eh bien, ne voient pas forcément ça non plus. Ils vont apprendre ou réapprendre leur pays en quelque sorte, grâce à leurs rencontres, grâce à leurs souvenirs.
Et ça va pas être facile.
C'est pas facile.
C'est extrêmement difficile.
Le retour au pays est toujours très difficile.
Il y a un problème d'identité qui se pose là.
Absolument.
On est l'immigré quand on revient.
On est l'immigré, on est l'étranger, on est celui qui est parti. C'est quelque chose de particulièrement important en Algérie parce que, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, historiques, liées à la construction nationale, à ce qui s'est passé après l'indépendance, à cette espèce de matrice ou de logiciel très nationaliste. Hein, Michel Vinocq parlait d'un nationalisme fermé. C'est ce qui s'est passé en Algérie pendant des décennies. Eh bien, on avait tendance, enfin, ou plutôt le pouvoir, et ceux qui le détenait avait tendance à voir ceux qui partaient, que ce soit les émigrés, que ce soit ceux des années 90, effectivement, que ce soit les Haraga aujourd'hui, ceux qui partent clandestinement, hein, par la mer, on a tendance à les voir comme des traîtres. On les appelle souvent, y compris ceux qui sont en France, hein, j'en fais les frais d'ailleurs assez régulièrement sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on les traite de harkis en quelque sorte. Ce qui pose question, et ce qui pose aussi question sur aujourd'hui le rôle et la place des harkis en France et en Algérie dans la mémoire collective. Bref, ceux qui sont partis sont un peu, et souvent même, considérés comme des traîtres. Donc le retour est d'autant plus difficile. Il faut se battre contre un certain nombre de préjugés, contre des sentiments assez, assez forts et assez contrastés, y compris parmi les siens.
Benjamin Stora, éclairez-nous par rapport à l'histoire dont parlait à l'instant Karim Amelal. On peut imaginer que ces problématiques ne se posent peut-être pas pour des Algériens qui seraient partis vers d'autres pays que la France. Il y a quelque chose évidemment d'extrêmement particulier entre la France et l'Algérie quand on touche à ces questions-là.
Bien sûr, bien entendu, vous savez, la présence française en Algérie a duré près d'un siècle et demi. Donc elle s'est étalée sur 4, 5, 6 générations. Donc a eu des conséquences, bien entendu, sur le plan linguistique, sur le plan culturel, sur le plan politique, bien entendu, avec la fabrication d'idéologies politiques qui à la fois empruntaient à la France, mais aussi en réaction contre la France. Donc on a eu une fabrication d'un nationalisme, notamment en Algérie, qui est un nationalisme composite, à base de républicanisme, bien sûr, de socialisme, mais aussi d'islam, mais aussi de refus de la présence étrangère, donc un nationalisme qui s'est forgé notamment dans l'entre-deux-guerres autour de grandes figures, hein, comme Bessali, Ferhat Abbas ou Ben Badis, qui ont été les trois grandes matrices politico-culturelles de la fabrication de ce nationalisme. Je ne sais pas si on peut dire qu'il était fermé, parce qu'au point de départ, ce nationalisme quand même, notamment porté par Ferhat Abbas, c'était un nationalisme très ouvert, qui voulait précisément une sorte de repossession identitaire, mais en coopération avec l'Europe, avec la France, etc. Mais l'histoire en a décidé autrement, et on sait que la guerre a séparé de manière très dure, disons, les communautés. Donc vous voyez que c'est une histoire très longue, très très compliquée et cruelle, entre la France et l'Algérie, et qui bien sûr provoque disons des situations très complexes sur le plan culturel notamment.
Et c'est un nationalisme qui a dû se construire, vous venez de le dire, en partie contre l'histoire. Vous signez dans l'Obs une interview Benjamin Stora qui revient sur cette longue histoire, parce que depuis une quinzaine d'années on parle peut-être un peu plus volontiers, notamment dans l'éducation, de la guerre d'Algérie qu'on a pendant très longtemps d'ailleurs pas appelé guerre d'Algérie, mais vous rappelez qu'il faut parler aussi de toute l'histoire dans le temps long et de ces 130 années de colonisation et notamment de la conquête aussi.
Oui, bien sûr, on a commencé à parler récemment de la guerre d'Algérie, c'est une bonne chose d'ailleurs en France, mais il faut remonter en avant, en amont, parce que pour comprendre précisément cette séquence de la guerre d'Algérie, eh bien il faut commencer peut-être à entrer dans une autre guerre, qui était la guerre de conquête. Une guerre très longue qui a commencé en 1830 jusque dans les années 1870-1900 même. Et donc une guerre très très meurtrière et très longue et qui a provoqué, et ça on le sait très peu en France, des réactions de repli, des réactions de refus, notamment de la population musulmane, contre la présence française, c'est une certitude, mais aussi la création d'espaces culturels mixtes, des interstices de la société dans lequel ont pu exister et cohabiter les différentes communautés qui se sont progressivement installées sur cet immense territoire qu'est l'Algérie. Donc on a tout un travail encore d'exploration et d'investigation sur cette relation franco-algérienne qui est très très complexe. Encore une fois, parce que l'Algérie avait été purement et simplement intégrée, disons, à la France, qui est absolument inouïe dans l'histoire de la colonisation française, alors que l'immense majorité de cette population, notamment musulmane, n'avait pas accès aux mêmes droits politiques. Donc ça a créé, disons, cette conflictualité non avouée pendant très 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 longtemps, pendant pratiquement 4, 5, 6 générations, et ce qui a pesé sur les comportements, sur les imaginaires. Bon, il suffit de lire, par exemple, le très très beau journal de Mouloud Feraoun, instituteur, qui donne très très exactement le tempo sur ce déchirement, cette conflictualité intérieure sur les problèmes d'identité, à travers notamment la question de la langue.
Mais ça pose effectivement le problème des deux rives de la Méditerranée, parce que si d'un côté, ici en France, on ne parle pas de cette histoire dans le temps long, Karim Amelal, en Algérie, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux connu, c'est beaucoup mieux documenté et c'est surtout enseigné.
Alors, c'est beaucoup mieux documenté, beaucoup mieux renseigné, s'agissant évidemment de la période qui a suivi l'indépendance depuis 1962. S'agissant de la guerre d'Algérie, appelée guerre de libération en Algérie elle-même, déjà les choses sont un peu plus complexes, puisque c'est une histoire qui, à bien des égards, a été, dès après l'indépendance, en grande partie réécrite, avec un certain nombre de figures historiques qui ont mené la révolution, puisque ça s'appelait comme ça, on l'appelait comme ça à ce moment-là, qui ont disparu des manuels d'histoire. Il y a d'ailleurs quelque chose de très intéressant qui se produit depuis le 22 février, chaque vendredi, puisque vous le savez, les manifestations se déroulent, alors pas que le vendredi, le mardi aussi, mais principalement le vendredi.
Le grand jour, c'est le vendredi.
Le grand jour, c'est le vendredi, avec tous ces jeunes qui, évidemment, par définition, n'ont pas connu cette période-là, mais qui brandissent les portraits des martyrs, des révolutionnaires, de ceux qui ont, des moudjahidines, comme on dit, de ceux qui ont combattu pour l'indépendance dans un effort, dans un élan absolument extraordinaire et très beau, je trouve, de se réapproprier ces figures-là et partant leur histoire et toute cette histoire qui leur a échappé et qu'on ne leur a pas forcément enseigné intégralement. Oui, il y a en Algérie une meilleure connaissance de cette période-là, bien sûr, bien que ça se discute sur certains aspects. Et puis il y a surtout, je crois, comme en France d'ailleurs, et en particulier chez les jeunes, une formidable envie de connaître et de se réapproprier cette histoire. Juste un mot supplémentaire, si vous le permettez, sur la guerre d'Algérie, mais depuis la France. J'ai discuté avec des proviseurs il n'y a pas très longtemps qui me parlaient justement de l'enseignement dans les cours d'histoire de la guerre d'Algérie, en disant que cette période-là, encore aujourd'hui, et malgré le, évidemment, le travail fondateur formidable de Benjamin Stora, cette histoire-là n'est encore pas suffisamment enseigné. Beaucoup de profs d'histoire refusent de l'enseigner parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça leur paraît secondaire, parce qu'ils ont des choix à faire dans le programme. Et c'est quelque chose qui me paraît tragique, et qui me paraît problématique pour les jeunes actuellement, et en particulier pour toute cette jeunesse issue, comme on dit, de l'immigration algérienne, qui a besoin de connaître cette histoire, de savoir d'où elle vient, pour mieux se situer. Et je trouve que encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait référence à votre première question sur Emmanuel Macron lançant un appel aux maires sur la reconnaissance de cette mémoire-là des tirailleurs, des goumiers, etc., africains qui ont débarqué en Provence. Je crois qu'il y a encore une douleur, une incapacité en partie, une réticence très forte en France à dévoiler l'intégralité du récit national. Et ça s'exprime par l'histoire, et ça s'exprime sur la guerre d'Algérie en particulier.
Benjamin Stora, vous confirmez ce que dit Karim Amelal, vous étiez effectivement en grande partie à l'origine de tous les travaux qui ont pu être faits sur la guerre d'Algérie.
Oui, bien sûr, il y a effectivement tout un chantier à continuer à mettre en œuvre, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'enseignants dans les lycées aujourd'hui enseigne cette histoire de la guerre d'Algérie. Mais moi, je plaide maintenant pour le, non pas sur la question de la guerre, mais de l'avant-guerre, c'est-à-dire de la question de la colonisation qui a été très très longue, une période d'un siècle et demi. Et mon propos, mes investigations et mes réflexions portent davantage sur l'avant-guerre que sur, dans le fond, le cours même de cette séquence particulière et de l'après-guerre. Je crois que si on veut comprendre ce qui s'est passé dans ces années-là, 54-62, il faut remonter très loin en amont et puis essayer de réfléchir, d'explorer ce qu'ont été la réalité de ce système et de cette histoire.
On va continuer cette discussion après le journal de 8h. Benjamin Stora, Karim Amelal, vous restez avec nous.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Et on s'intéresse à l'identité algérienne ce matin, ou aux identités algériennes de chaque côté de la Méditerranée. Nous recevons Karim Amelal, écrivain et enseignant à Sciences Po également, qui publie, ou qui a publié avant le mouvement de contestation, et on va revenir là-dessus, « Dernières heures avant l'aurore », c'est votre dernier roman paru aux éditions de l'Aube, Karim Amelal. Et puis nous sommes également au téléphone avec l'historien Benjamin Stora, expert de l'histoire algérienne et de l'histoire franco-algérienne. Nous disions avant le journal que cette nation avait dû se construire ou se reconstruire ou finir de se construire après l'indépendance, avec les moyens à disposition et les contraintes qui se posaient et qui s'opposaient à elle. Et alors qu'un vaste mouvement de contestation qui est quand même dans l'histoire algérienne extrêmement important, Karim Amelal, depuis le 22 février est en cours et a abouti déjà à un certain nombre de résultats, notamment le départ, ce qui n'était pas rien, ce qui n'était pas du tout assuré de Abdelaziz Bouteflika, le président algérien très contesté. Cette question est évidemment tout à fait d'actualité. Ce livre, ce roman, Dernières heures avant l'aurore, Karim Amelal, on sent que vous aviez pressenti ce mouvement. Vous l'avez écrit juste avant, et finalement, ces tensions qui traversent la société algérienne que vous décrivez dans le roman, on les voit maintenant à l'œuvre au grand jour, finalement, dans la rue, tous les vendredis, comme on disait tout à l'heure.
Ouais, exactement. Alors, je sais pas si je pense que j'ai pas vraiment pressenti, comme beaucoup d'autres, que ça allait se passer de cette manière et aussi rapidement, aussi brutalement. Mais les choses ne pouvaient pas durer comme ça. Le régime de Bouteflika était crépusculaire. D'ailleurs, c'est un roman qui est un peu à l'image de ça. Hein. C'est un roman très crépusculaire, mosaïque mais crépusculaire, qui décrit les dernières heures justement de ce régime agonisant. Mais il y avait beaucoup de signes avant-coureurs. Encore une fois, quand on transperçait un petit peu cette banquise politique avec tous ces personnages très vieux, souvent malades, à l'image de Bouteflika, cette corruption, etc., on se rendait compte qu'il y avait une société civile, une société tout court, qui bouillonnait. Et c'est bien à quel point la société algérienne et où les Algériens sont fiers, orgueilleux, et se voir comme ça dirigé par un président, c'est d'ailleurs ce qui a conduit au déclenchement du mouvement, se voir dirigé, gouverné, représenté par un président malade en fauteuil roulant, par un portrait même, puisque c'est un tableau finalement, un cadre, le figurant, qui était présenté aux gens en les exhortant à voter pour lui. On se disait bien que ça ne pourrait pas durer comme ça éternellement. Et en même temps, c'est vrai que il y a encore quelques mois, avant le 22 février, franchement, rares étaient ceux qui pouvaient imaginer que les choses aillent aussi vite, surgissent aussi brutalement dans l'espace public, et de cette manière-là, c'est-à-dire un mouvement pacifique, un mouvement qui dure, et un mouvement qui, malgré les difficultés actuelles, obtient des choses. Hein. Vous en avez parlé, ouais. Le départ de Bouteflika, c'est quand même pas rien.
Bon, il en reste d'autres à obtenir, un processus en construction permanente, Benjamin Stora. Tout à l'heure, Karim Amelal nous parlait de ces manifestations tous les vendredis et tous les mardis aussi d'ailleurs à Alger, dans les grandes villes algériennes, avec parfois des représentations de héros de la guerre d'indépendance qui étaient brandis par les manifestants. Il y a d'autres types de drapeaux qui sont brandis, le drapeau berbère notamment. Alors ça vaut d'ailleurs des suites et des poursuites judiciaires très lourdes d'ailleurs, et des risques de condamnation très lourdes pour les manifestants. On voit que cette identité algérienne, Benjamin Stora, est en train de se faire, en train de se recréer ou de finir de se créer. Ça se finit jamais, mais ça se fait pas très facilement. Hein. Ça se fait dans la complexité et dans la colère.
Oui, bien sûr, une fois l'indépendance obtenue, dans le fond, tout restait à faire en Algérie, c'est-à-dire à construire une nation, un pays, et donc, bien entendu, de mettre en œuvre et de fabriquer une identité à la fois culturelle, politique, bien sûr. Et la question berbère est très vite posée en Algérie. Dès 1980, ce sont les gens, notamment en Kabylie, qui ont fissuré le système du parti unique par le mouvement berbère de 1980, qui a été réprimé, mais qui a ouvert la voie à la création des ligues de droits de l'homme, au mouvement des femmes, citoyens contre la réforme du code de la famille en particulier. Et puis ensuite, une seconde, pourrait-on dire, d'intervention sur ce thème-là, de la berbérité, avec la répression des manifestations de 2001, qui ont fait des dizaines de morts à cette époque-là. Donc on voit que c'est une société qui, effectivement, essaye de bâtir un modèle qui, à la fois, construise un état de droit et respecte les minorités au sens, j'allais dire, culturel du terme. C'est une question politique, c'est pas simplement, d'ailleurs, une question culturelle. Donc on a une bataille autour des drapeaux, comme on l'a dit récemment en Algérie, qui n'est pas une bataille mineure, mais une bataille très très importante, c'est-à-dire comment construire un état moderne, un état de droit, un état centralisé aussi, bien sûr, en préservant le lien national, tout en respectant l'histoire plurielle, l'histoire diverse, la question de la pluralité, qui est une question tout à fait décisive en Algérie. Donc on est entré dans une nouvelle période de l'histoire intérieure algérienne.
Une question sur les drapeaux, une question sur les langues aussi, Benjamin Stora. Récemment, l'université algérienne a été priée de privilégier l'anglais aux Français, les enseignements en anglais plutôt que les enseignements en français. Vous comprenez ce mouvement comment ?
Bon, c'est un mouvement de balancier assez classique, hein, dans une société qui avait été dépossédée, hein, de son histoire culturelle et de sa langue, notamment la langue arabe. On a parlé aussi, bien sûr, de la langue berbère, et qui cherche les repossessions identitaires. Mais ça se fait dans des conditions toujours très chaotiques. On avait assisté déjà à ce problème en Algérie dans les années 70 avec ce qu'on a appelé l'arabisation de l'enseignement, qui a été mal faite, bien sûr, et qui a provoqué des drames sociaux d'ailleurs considérables entre arabophones et francophones. Et voilà qu'on remet ça encore une fois en chantier, ce qui ne me paraît pas être la meilleure des solutions politiques aujourd'hui, parce que l'Algérie a besoin d'autre chose qu'un débat éternel, disons, sur la question des langues. C'est, je pense, plus la question des compétences et de la lutte contre les corruptions diverses qui doit être à l'ordre du jour, plutôt que de remettre encore une fois en chantier la question de la langue, qui n'est pas simplement une question, encore une fois, culturelle, mais une question économique et politique. Et c'est un risque de déstabiliser, hein, encore une fois, le pays, alors que on a besoin, disons, d'avancer vers plus de cohérence, tout en respectant, bien sûr, la multiplicité, comme je le disais, des identités particulières. Donc, ça me paraît être une question difficile, d'autant qu'existe, comme l'a déjà souligné Karim Amelal tout à l'heure, notamment dans son livre, dans son roman, d'autant qu'existe une diaspora algérienne très, très importante, de plusieurs millions de personnes, et qui parle français. Donc, on ne pourra pas éliminer, disons, la langue française d'un coup de baguette magique de l'histoire intérieure algérienne. Beaucoup de grands écrivains algériens continuent d'écrire en français aujourd'hui, même si, bien sûr, l'anglais est une langue très forte, une langue dominante, on le sait, sur le marché international, le marché culturel international. Enfin, on ne pourra pas éliminer le français par une simple, disons, demande venue d'en haut. Or, précisément, ce qu'il faudrait en Algérie, c'est que ce type de débat soit mis, disons, à l'ordre du jour de toute la société, mis en débat, et non pas d'imposer, encore une fois, des décisions quelquefois perçues de manière arbitraire par en haut.
Merci Benjamin Storin, je crois que vous devez nous quitter pour des impératifs concernant votre agenda. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions ce matin. Karim Amelal, sur cette question de la langue, cette question des drapeaux aussi, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Benjamin Storin.
Oui, bien sûr, dans le prolongement de ce que vient de dire Benjamin Storin. L'identité, j'ai un peu de mal avec ce mot, l'identité, c'est un concept compliqué, mouvant, etc. La personnalité algérienne est une personnalité composite. L'Algérie est africaine, elle est méditerranéenne.
Vous dites c'est pas un pays arabe.
Elle est berbère. Elle est tout cela. Ouais. Et toutes ces mémoires-là, tous ces fils, ces mille fils, doivent être retissés pour bâtir enfin, d'une certaine manière, un récit national qui soit reconnaissant des apports, des identités, des cultures de chacun. C'est effectivement ce pourquoi se sont battus des écrivains qui nous sont chers. Mouloud Mamri, par exemple, sur l'identité berbère, sur l'identité amazir, qui est fondamentale, et on sait à quel point elle a été brimée en Algérie, elle continue de l'être, c'est ce que vous expliquiez à travers cette...
On risque 10 ans de prison hein, quand, on, de, voilà, quand drapeau, on manifeste avec sûr. Un drapeau berbère aujourd'hui en Algérie.
Cas, mais ouais. Oui, bien sûr, et le pouvoir a toujours cherché à attiser les haines, les fragments de division, justement, les ferments de division, à travers ces symboles-là, la question du drapeau amazir, du drapeau kabyle en particulier, la question de la langue, hein, tout simplement, et de la reconnaissance de cette culture. Mais c'est valable pour le français aussi, c'est valable pour, d'une certaine manière, l'africanité de l'Algérie. L'Algérie est un pays africain. C'est un pays qui a aussi, dans sa chair, d'une certaine manière, dans son corps, une certaine partie de la population qui parle français. Tous ces éléments-là, tous ces fragments de mémoire, toutes ces mémoires, et c'est valable aussi à l'égard des pieds noirs, par exemple, ou des juifs d'Algérie, ou des chrétiens, doivent être acceptés et doivent être inclus dans cette nouvelle Algérie qui est en train, je le crois profondément, de se lever, une Algérie libre, démocratique et reconnaissante de cette histoire multiple.
Alors on peut comprendre l'Algérie aussi, on peut mieux la comprendre en prenant en compte le football, Karim Amelal.
Un
symbole extrêmement fort, on parlera des supporters algériens en France qui ont fait beaucoup parler pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que vous nous expliquez, Karim Amelal, dans une tribune récemment, c'est que cette équipe de foot algérienne, il faut la voir aussi comme une équipe binationale. Et ça c'est extrêmement important. Énormément de joueurs, le sélectionneur, sont franco-algériens. Plus d'une dizaine de joueurs sont en fait français.
Oui, comme l'équipe du Sénégal d'ailleurs.
Comme l'équipe du Sénégal par ailleurs.
Oui, ouais, tout à fait. Et ça, oui, ça bien sûr. Je crois que cette équipe est très symbolique par plein des aspects, et le football a toujours cette vertu de synthétiser comme ça en un laps de temps très très court beaucoup de choses, et parfois de choses très complexes, et c'est le cas avec cette équipe-là, dans le cadre d'une compétition africaine, encore très important hein, pour l'Algérie, je vous rappelle que c'était un pays aussi africain, avant tout africain même peut-être, et c'est ce qui s'est passé, et la binationalité, mais en fait plus fondamentalement la double culture, et encore plus fondamentalement, l'appartenance multiple et la possibilité d'être algérien, mais pas seulement arabe et musulman, la possibilité d'être algérien et français, la possibilité d'être algérien et athée aussi. Ce sont des choses qui ne se sont pas exprimées forcément dans le cadre de cette compétition sportive, c'est du sport avant tout, mais enfin qui ont scandé l'imaginaire national, l'imaginaire collectif, et qui sont des éléments très importants. Et cette équipe-là, qui en plus a gagné, a triomphé, et qui se faisait rabrouer systématiquement par le passé, par les autorités, en disant de toute façon ils perdent, mais ils perdent parce qu'il y a des binationaux, il y a trop de binationaux dans cette équipe, elle n'est pas représentative de la personnalité algérienne.
Un débat parallèle par rapport à ce qu'on avait en France.
Exactement.
Et elle
est d'ailleurs en écho au mouvement du 22 février, à ce qui se passe dans les rues, pas que d'Alger, mais de l'Algérie, à ce mouvement qui se lève. Elle rappelle que la personnalité de l'Algérie est une personnalité multiple. Et elle doit aussi inclure, ce qui ne s'est jamais fait par le passé depuis 1962, tous ceux qui sont partis, et je dis bien tous ceux qui sont partis, pas uniquement les travailleurs immigrés ou émigrés dans les années 50 ou 50 à 70, mais aussi les pieds noirs, mais aussi cette diaspora des années 90. Tout cela, et c'est ce que rappelle un petit peu cette équipe-là d'Algérie, tout cela, on voit au chapitre. Et en réalité, tous ceux qui aiment l'Algérie et qui se sentent d'une manière ou d'une autre appartenir à ce territoire.
Et c'est ce qu'elle rappelle aussi aux supporters algériens qui ont si bruyamment manifesté en France.
Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Je crois pas que ce soit vraiment propre aux Algériens, mais il y a quelque chose qui se passe avec les Algériens, et quelque chose qui relève de la douleur, qui relève de quelque chose d'assez conflictuel. On se rappelle du match d'octobre, je crois que c'était en octobre 2001.
Voilà, le Marseillaise sifflé.
Vaillé le terrain, la Marseillaise sifflé, etc. Je crois que beaucoup de franco-algériens, au sens très large, conjuguent parfaitement leurs identités multiples. Pour les plus jeunes, il y a parfois un besoin de reconnaissance qui s'exprime, une certaines douleurs, un héritage des parents aussi. Hein. Les parents étaient des invisibles pour beaucoup d'entre eux, dans les cités notamment, ce qu'on appelle les cités. Et donc, il y a à la fois une volonté de s'affirmer, le football et la CAN et l'Algérie est une arme d'affirmation massive, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi un besoin de reconnaissance qui s'exprime, un besoin de reconnaissance et une certaine forme de ressentiment, tout ça avec une fierté effectivement extraordinaire, mais qui est valable pour tous les supporters, quelle que soit l'équipe.
Merci Karim Amela. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Dernières heures avant l'aurore, publié aux éditions de l'Aube. On remercie également Benjamin Stora qui était au téléphone avec nous il y a quelques minutes, 8h31 sur France Culture.